Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous poursuivons notre balade à travers le pays. Et cette fois-ci, nous allons terminer notre ronde avec Berry Luchaka sur les préjugés comme facteur de violence.
Toute forme de préjugés de religion, de race, de couleur, de nation et de politique, ou même de secte détruisent les fondations de l'humanité. Toutes les causes des divisions du monde, la haine, les guerres désastreuses avec leur cortège de misère et de carnage sont dues aux préjugés. Ces préjugés sont la ruine du genre humain. C'est ce qui est arrivé aux Quinois à la veille des élections, premier rendez-vous électoral depuis alors 46 ans. Plusieurs idées ont prévalu avant les rendez-vous historiques selon lesquelles, avant les élections serait après les élections, que les enjeux seraient déjà préjoués, comme le confirment ces étudiants rencontrés à Kinshasa.
Il y avait beaucoup de points d'interrogation que les gens se disaient « Tozela Tomona ». Parce que les gens voulaient être sûrs que si effectivement cette élection allait bel et bien arriver, et si elle arrivait, dans quelles conditions sécuritaires, et l'après, quelles garanties cette élection peuvent leur emmener dans leur vie quotidienne.
Avant les élections, j'ai constaté que la République était plus ou moins divisée encore par rapport au président des partis politiques. Ici, dans la capitale, c'était plutôt Jean-Pierre Bemba qui prenait beaucoup plus de l'ampleur par rapport à l'Est.
En général, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y avait... Et des gens qui croyaient qu'il y a déjà un candidat favori qui avait tout manipulé bien avant.
Moi, je crois que les gens parlaient de vote et des élections, mais ils ne comprenaient pas en fait qu'est-ce que d'abord une élection.
Cette situation serait-elle à la base de la peur? Les avis sont partagés. Pour les uns, il n'y avait pas de raison d'avoir peur, surtout que c'était un premier rendez-vous. Mais quand même, beaucoup d'inquiétudes planaient.
Peur comme telle, je dirais non. Elle était beaucoup plus enthousiaste. Elle s'était laissée aveugler par la joie de voter pour la première fois. Et je crois qu'elle n'a pas beaucoup tenu compte des aspects profonds et des enjeux assez sérieux qu'avaient ces élections.
Les gens avaient peur. Ils avaient peur de l'atmosphère qu'il y avait entre les hommes politiques. Et parce qu'à l'époque, on savait que chacun avait son armée personnelle qui n'était pas encore unifiée à l'époque et avait raison d'avoir peur.
Évidemment qu'ils avaient peur. D'une certaine part, il y a un côté, comme j'appelle le fanatisme.
Des élections, mais quand ça tourne mal, vu que si on votait par exemple celui dont l'un d'eux quoi, et l'autre qui n'était pas satisfait, alors...
C'est la peur que ces élections puissent en revenir encore à une situation de guerre. Donc je pense que la peur prioritaire de la population était la peur qu'il y ait soit une guerre civile, une guerre militaire en pleine capitale, si on parle de Kinshasa.
Dans l'état où le pays se trouvait, on avait plusieurs opposants et plusieurs candidats les uns à s'opposer, donc on sentait déjà quelque chose de mauvais.
Ces inquiétudes, selon les Quinois, avaient une raison d'être. Plusieurs raisons sont évoquées, notamment la peur de mourir à coups de balle. Les électeurs quinois en savent quelque chose.
Quand chez vous, il y a des gens qui sont armés, chaque jour qui passe devant chez vous, est-ce que vous aurez peur ou vous n'aurez pas peur? Vous aurez peur de quoi? Que cette arme-là puisse se servir de cette gâchette. Et c'est éventuellement c'est la peur qui était transmise. Elle était diffuse, peut-être renfermée, mais en tout cas, elle était vécue quotidiennement.
C'était justifié, la preuve c'est qu'on a eu des troubles ici à Kinshasa à plusieurs reprises.
Je dirais un peu oui, par rapport à ce qu'on voyait, parce que Bemba, il avait des armes, et puis Kabila qui repoussait à chaque fois. Alors je pense que la peur était vraiment justifiée. Et surtout la non-participation de Chen Tshisekedi dans le processus électoral, et ça n'a pas du tout été facile, et surtout pour les Quinois.
Malgré tout, les élections ont bel et bien eu lieu, et cela à deux tours, le 30 juillet et le 29 octobre 2006. Mais les conséquences à Kinshasa ont été réelles. Les Quinois se souviennent des émeutes au lendemain de la publication des résultats au premier tour, ainsi que ceux du 22 et 23 mars 2007.
Oui, il y avait des conséquences. Je crois que les conséquences de ces élections ont été palpables, assez palpables.
Non, mais on a tous vu ce qui s'est passé dernièrement. Moi, je suis de Kinshasa.
Je pense que vous êtes à Kinshasa. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la publication du premier tour, des affrontements entre les deux candidats. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa.
Des émeutes qui s'étaient déroulées au mois de mars.
Oh, il y a des conséquences. conséquences parce qu'on a vu de morts. Hein. Il y a eu des enfants qui sont partis à l'école, qui ne sont plus revenus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des troubles et ces enfants-là sont partis à jamais. On n'a rien dit par rapport à ça jusqu'à aujourd'hui.
Comme s'ils avaient raison d'avoir peur d'aller aux urnes, les prochaines élections présidentielles auront-elles la même couleur? La question reste posée et l'avenir nous éclairera.
Merci, Berry Luchaka, pour ce reportage. Nous rappelons que lorsque l'on vit avec des préjugés, on a tendance à diaboliser les autres. Le peuple congolais qui a vécu plus de 40 ans sans élections libres, transparentes et démocratiques a connu en 2006, comme vous l'avez suivi, ses premières élections pluralistes. Avant ces élections, plusieurs idées circulaient dans la tête des électeurs congolais. Vous avez bien suivi dans ces reportages. Conséquence, plusieurs personnes ont vécu en chien de faïence, notamment les Kinois qui étaient méfiants vis-à-vis des swahiliophones. Nous avons dans ce studio Paul Okomba, docteur en communication. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors peut-on dire que la méfiance entre les swahiliophones et les lingalophones en tant que groupe est basée sur des préjugés et lesquels? Et ces préjugés sont-ils vrais?
Il est exact que les deux groupes que vous venez de citer, à savoir les swahiliophones et les lingalophones, entretiennent les uns envers les autres des préjugés qui sont à l'origine de la méfiance qui existait entre eux. Je donne quelques exemples. Les lingalophones affirment que les swahiliophones sont sournois, hypocrites, et qu'ils boivent beaucoup de bière en tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Les swahiliophones de leur côté considèrent que les lingalophones sont légers, superficiels, et ce sont des gens qui sont toujours prêts à faire des entourloupes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien les préjugés des lingalophones à l'égard des swahiliophones que ceux des swahiliophones à l'égard des lingalophones ne correspondent à aucune réalité scientifiquement établie. Dans les deux cas, il s'agit des affirmations sans preuve, ce sont des fausses affirmations.
Voilà, donc on peut dire que dans bien des cas, les préjugés constituent toujours des fausses évidences.
Les préjugés, ce sont des faux jugements, ce sont des opinions sans preuve, ce sont des affirmations qui ne correspondent à aucune réalité dans la société.
Alors, pouvez-vous nous donner une définition simple de concept stéréotype d'abord? Parce que quand on voit des stéréotypes et préjugés, quelle est la nuance entre les deux?
Un préjugé, c'est un jugement préconçu, non prouvé et faux qu'on porte sur un groupe social ou sur un individu d'un groupe social. Et ce jugement est toujours accompagné d'une attitude émotionnelle favorable ou défavorable, mais le plus souvent défavorable à l'égard d'un groupe social ou à l'égard d'un individu appartenant à un groupe social. Donc il y a deux catégories de préjugés. Vous avez des préjugés favorables et des préjugés défavorables. Mais la plupart des préjugés qui circulent dans la société, ce sont des préjugés défavorables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un préjugé, c'est un jugement non prouvé et faux. Alors, en ce qui concerne le stéréotype, c'est une idée ou une opinion toute faite, et donc également un préjugé, mais qui a acquis de la solidité et qui s'impose comme un cliché, une représentation sociale.
De la société.
Voilà, une représentation sociale généralisée aux membres de toute une collectivité ou d'un groupe social.
Exemple, quand on parle des Baluba, qui sont trop orgueilleux, ambis d'eux-mêmes, généralement ce sont des fausses évidences.
Et c'est des stéréotypes. Ce sont des stéréotypes. Dans notre société, il en existe beaucoup. Vous avez cité le stéréotype du Mouluba, vous avez le stéréotype du Mouluba Vantar, le stéréotype du Mouyaka qui est toujours sentinelle, du Mongala qui est un mauvais gestionnaire.
Oui, ça me rappelle même juste une anecdote quand nous fûmes encore à l'université où des étudiants qui ne voulaient pas se marier avec les Mongos, ils disaient disons épouser une Mongo, c'est épouser une prostituée.
Absolument. Absolument. Et donc vous avez ce stéréotype sur les femmes mongoles, il y en a beaucoup. Et à l'est du pays, dans cette partie qui est traumatisée par les conflits, il existe aussi des stéréotypes sur les Banyamulenge, sur les Regas, ainsi de suite. Et donc un stéréotype, c'est un jugement non prouvé et faux, mais généralisé à l'ensemble d'une collectivité. Un préjugé, c'est un jugement qui est non prouvé et qui est faux également.
Mais alors, comment naissent les stéréotypes? Parce que je pense que ça ne tombe pas comme une manne du ciel, ce n'est pas comme une génération Melchizedek, qui n'a ni origine, ni père.
Les stéréotypes naissent en réalité des préjugés. Et les préjugés, à leur tour, naissent des conflits. les conflits des intérêts économiques, les conflits des intérêts politiques, les conflits pour les statuts et les privilèges sociaux, mais également les différences qui peuvent exister dans la société, les différences des cultures, des langues, de couleurs et des nationalités. Ce sont tous ces éléments qui sont à l'origine des préjugés. Et quand les préjugés durcissent, deviennent solides et se présentent comme des représentations généralisées à l'ensemble d'une collectivité, en ce moment-là, ils deviennent des stéréotypes.
Mais j'imagine que les stéréotypes peuvent constituer un déclencheur de division d'une nation, voire même d'un pays. Les gens peuvent se diviser à partir des stéréotypes.
Justement, les stéréotypes, en général, favorisent la division, favorisent la méfiance, parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des stéréotypes, on se méfie, on a peur. On vous dira, par exemple, ce groupe-là est constitué des sanguinaires, et donc ce sont des gens extrêmement dangereux. Et en ce moment-là, le stéréotype provoque la peur, la méfiance, et débouche naturellement sur l'isolement et l'exclusion du groupe qui est incriminé. Et les stéréotypes favorisent même la rationalisation de la destruction du groupe. Parce qu'on se dit, mais ce sont des gens sanguinaires, on ne peut pas travailler avec eux, on ne peut pas collaborer avec eux, ce sont des gens dangereux, et donc il faut les exclure, il faut les éliminer. Voilà de quelle manière il y a une relation directe entre les stéréotypes et même la violence des groupes dans les sociétés.
C'est très dangereux parce que les stéréotypes favorisent l'isolement, on voit un groupe qui se reconquérit, et là c'est très dangereux.
Absolument.
C'est très dangereux parce qu'on se met à la défensive.
C'est la raison pour laquelle il faut combattre les préjugés dans la société, il faut combattre les stéréotypes parce qu'ils constituent un facteur de violence de groupe, ils constituent un facteur de division dans la société. Et si vous analysez très bien les violences de groupe que nous avons vécues dans notre société, que ce soit au Bas-Congo, que ce soit à l'est du pays, vous trouverez toujours derrière des préjugés et des stéréotypes. Au Bas-Congo, on vous dira, mais les gens de Kinshasa, ils sont envahissants, ils viennent prendre des emplois, et donc ils sont dangereux, et ainsi de suite. Ailleurs, on vous dira, mais tout le petit commerce est occupé par ces gens-là nous prennent des terres. Vous avez des stéréotypes qui circulent, qui provoquent la méfiance, qui provoquent l'hostilité et qui débouchent.
Et là, on met des mécanismes, sorte de mécanismes défensifs pour éviter qu'on puisse être victime, par exemple.
Et absolument. Les personnes qui sont victimes des stéréotypes en général, ils se sentent humiliés, diminués. Ils considèrent que leur culture n'est pas considérée. Ils estiment qu'il y a atteinte à leur identité, à leur culture. Alors finalement, ils peuvent recourir à la violence et même à la vengeance pour imposer leurs droits et pour se faire reconnaître. Voilà de quelle manière le stéréotype peut pousser un groupe qui se sent exclu à la violence.
Alors j'imagine que, surtout dans la partie est de notre pays, la partie qui connaît de l'après-guerre, voilà, ces préjugés constituent un facteur, disons, le leader de certains groupes utilisent même ces stéréotypes pour poursuivre leur guerre.
Hein. Absolument.
Parce que là, ils sont dans des conditions difficiles. La population, en général, disons particulièrement, se trouve dans une situation difficile et il ne peut gober que tout ce qu'on lui demande à faire.
Je crois qu'il y a... Je retiens quatre explications qui permettent de comprendre pourquoi certains groupes ou certains leaders exploitent des préjugés négatifs sur les membres d'autres groupes. Et la première explication tient au fait que les préjugés permettent de diaboliser les membres d'un groupe et de les désigner comme étant à l'origine
des problèmes de la société.
C'est comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, on vous dira, mais ils sont envahissants, ils ont pris le petit commerce, ils prennent les emplois, ils prennent les terres. Et donc,
ils risquent de prendre nos femmes.
Voilà, et ils risquent de prendre nos femmes. Et donc, le préjugé permet de diaboliser et de désigner les responsables d'une situation difficile. Deuxièmement, grâce aux préjugés, on crée la méfiance, on crée la peur à l'égard du groupe considéré à tort comme ennemi. Parce que qu'est-ce qui se passe? On vous dira, ils sont des sanguinaires. Et donc, il faut se méfier de ces gens-là. Ils sont extrêmement dangereux. Et la troisième explication réside dans le fait que la méfiance et la peur créées par les préjugés conduisent tout naturellement à l'exclusion et à l'isolement du groupe qui est ainsi incriminé et fournit même des arguments pour détruire ce groupe. On vous dira, mais ils sont des sanguinaires, donc il faut les éliminer.
Il faut les éviter,
ainsi de suite.
Voilà. Professeur, on va poursuivre avec vous pour savoir quelles sont les conséquences négatives liées aux stéréotypes sur les individus qu'ils ciblent. Mais on va suivre la conclusion de Marcel Kankou.
Le préjugé est une attitude défavorable et généralisante envers une ou plusieurs personnes, en raison de leur appartenance à un groupe particulier. Celui qui développe des préjugés va instrumentaliser une caractéristique culturelle méconnue de l'autre groupe pour le présenter de manière anormale et péjorative et ainsi créer des méfiances vis-à-vis de ce groupe. Une fois que la méfiance et la peur sont là, il peut nous paraître justifié et même moral d'exclure du pouvoir et même du pays le groupe qui est présenté comme immoral et de nature inhumaine. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les populations du Nord qui ont été victimes de l'idéologie de l'ivoirité. Cette idéologie a fait de nombreux morts et des traumatisés, tous étaient pourtant des citoyens ordinaires et innocents. Pour prévenir et surmonter l'antagonisme lié aux stéréotypes et préjugés, il est important de donner une bonne éducation aux enfants en famille, dans des écoles et dans leur milieu de jeu. Les parents, professeurs et la société ne devraient pas accepter que des enfants répètent des stéréotypes. Pour cela, il est important de leur présenter des rites et cultures différentes par le biais des lectures d'histoire, des contes et de les corriger dès qu'ils utilisent les préjugés. La société doit apprendre à humaniser des groupes qui étaient auparavant dévalués. Cela peut se faire par exemple par l'organisation des émissions dans des médias qui promeuvent les aspects souvent exploités comme stéréotypes ou préjugés sur certains groupes. Des auditeurs de la radio Okapi peuvent bien s'inspirer de l'expérience de l'émission Okapi Patronymie, qui fait la promotion des valeurs culturelles de tous les groupes ethniques de la RDC. Cette initiative permet de briser les clichés et stéréotypes qui se répandent dans le milieu. Autre exemple à reproduire, au sud Kivu, où des jeunes Banyamulenge sont considérés comme des guerriers, 25 jeunes originaires de chacun des 8 territoires du sud Kivu se sont retrouvés dans les hauts plateaux d'Itombwe pour un séjour d'échange et de solidarité. Durant le séjour, les jeunes ont aménagé ensemble le pont Luiko qui relie les villages de Minembwe Centre et de Kakenge. Nos différences culturelles ne doivent pas être des obstacles à l'unification de notre pays, mais des ponts.
Voilà, ça ne doit pas être des obstacles à l'unification de notre pays, mais plutôt des ponts. Nous allons poursuivre avec vous. Vous avez parlé des conséquences négatives qui mènent jusqu'à même à l'élimination physique de certains individus, voire même de certains groupes, professeur. Mais alors, comment les stéréotypes peuvent-ils affecter les relations entre les groupes?
Ben, comme je disais tout à l'heure, les stéréotypes engendrent la peur, la méfiance, l'exclusion. Ils favorisent la dévalorisation de certains groupes. Et alors le groupe qui est victime des stéréotypes et qui se sent exclu peut recourir à la force et à la vengeance pour se faire entendre et faire reconnaître ses droits. C'est de cette manière-là que les stéréotypes affectent les relations.
Alors groupes. Comment chaque citoyen congolais peut lutter contre les stéréotypes? Est-ce qu'il y a de pistes ou des panneaux indicateurs?
Chaque citoyen congolais peut lutter contre les stéréotypes à trois niveaux. Au niveau des relations, au niveau de l'esprit critique et au niveau de l'éducation et de la socialisation des enfants. Au niveau des relations, d'abord, vous savez, les spécialistes de la question des préjugés et des stéréotypes affirment que ce qui ruine les stéréotypes et les préjugés, c'est la réalité des relations dans le quartier, dans l'entreprise. Et donc, chaque Congolais peut lutter contre les préjugés en établissant des relations avec les membres des autres groupes. Ces relations permettront d'échanger des expérience, d'organiser des activités communes grâce auxquelles il peut se rapprocher des autres, parler aux autres et apprendre sur leur culture. En ce qui concerne l'esprit critique, chaque Congolais doit pouvoir développer l'esprit critique envers les discours des leaders qui exploitent les préjugés, mais également envers les médias, parce que les médias peuvent également constituer des véhicules des préjugés et des stéréotypes. Donc, il faut développer ce double esprit critique à l'égard de certains discours des leaders qui exploitaient les stéréotypes et à l'égard des médias de la haine.
Et troisièmement,
au niveau de l'éducation et la socialisation des enfants, chaque parent doit réprimander un enfant qui se sert des stéréotypes qu'il a entendus à l'école sur d'autres groupes. Il doit le corriger, il doit lui apprendre à s'associer à d'autres enfants ou aux enfants de membres d'autres cultures pour qu'ils se connaissent. Pour qu'en fait les stéréotypes et les préjugés soient éradiqués de la société.
Voilà, professeur Okomba, nous rappelons que vous êtes docteur en communication. Aujourd'hui, vous intervenez dans la chronique La Bénévoletia. Merci d'avoir été de nôtre et à la prochaine.
Je vous remercie également.